l'accent d'Europe, Catherine Roland.
Siamo qui nel cuore di Norcia, il punto preciso dove è stato ferito dal terremoto. Alle nostre spalle.
Bonjour à tous. Il y a un an, la Commission de Bruxelles a annoncé la création d'un corps européen de solidarité. Le principe des jeunes de 19 à 30 ans qui partent en mission au sein de l'Union et qui s'engagent dans des projets de société comme l'aide aux migrants, la construction d'abris ou encore la protection de l'environnement. Objectif développer le sentiment de citoyenneté européenne. Ils sont plus de 35 000 inscrits et un millier de jeunes volontaires qui sont aujourd'hui sur le terrain. Exemple donc de cette solidarité à Norcia, en Italie, un an après le tremblement de terre qui a touché la région. 16 volontaires sont sur place et c'est le reportage de Laxmilota.
La place principale de Norcia, la place San Benedetto, est méconnaissable. De la basilique du XIIe siècle, il ne reste que la façade. Tout le reste s'est écroulé lors du tremblement de terre du 30 octobre 2016. Les grues et les échafaudages font désormais partie du paysage.
C'est assez impressionnant l'ampleur de la catastrophe et l'état encore un an après des travaux qui restent à faire et tout ça. Et on voit que c'est un processus qui est assez lent.
À quelques mètres des ruines, casque de chantier jaune sur la tête, Canel Kraft et les autres volontaires du Corps européen de solidarité trient des pierres. Elle est française, a 28 ans et étudie les relations internationales.
Ils ont enlevé des pierres de la basilique en fait. Et donc on a aidé à les séparer parce qu'ils veulent garder vraiment... Les pierres d'origine pour reconstruire la basilique.
Sur la place, certains commerçants chanceux ont pu garder leurs boutiques ouvertes, mais les touristes sont encore rares par rapport à autrefois. Giancarlo vit ici depuis plus de 20 ans. C'est avec nostalgie qu'il nous montre une carte postale de sa boutique de souvenirs.
Il ne reste que la façade. Je vais vous faire voir comment était la place avant. Attendez. Voilà, c'était comme ça avant.
La population salue la présence de jeunes Européens dans le village. Erika est étudiante, elle est venue voir à quoi ressemble Norcia aujourd'hui et a rencontré des volontaires.
Je vis dans la région, je la connais bien. Je vois que la place est en train d'être rénovée. Je suis contente de cette initiative européenne et que l'Europe s'intéresse à nous.
Venus de Grèce, de Hongrie, de France ou encore d'Espagne, les jeunes participent également à la reconstruction du lien entre les habitants grâce à des animations avec les personnes âgées et les enfants. À la crèche, les petits sont en train de peindre des drapeaux européens. Eux aussi ont été marqués par le séisme, constate la bénévole Canel Kraft.
Quand on a fait des dessins avec les enfants dans leur square, il y en a beaucoup qui ont écrit la date du tremblement de terre. Et après, on est allé voir un spectacle de théâtre aussi avec des jeunes enfants. Et c'est vrai qu'ils avaient, fait une pièce de théâtre qui incluait un tremblement de terre.
Des habitants ont perdu leur maison et logent encore dans des bâtiments préfabriqués en dehors du cœur historique de la commune. Pour réparer les cœurs, les volontaires organisent danse, quiz, mais aussi un tournoi de cartes le soir avec les personnes âgées, un jeu traditionnel.
Briscola, ça s'appelle. C'est sympa, bon, ils sont habitués à jouer depuis des années, et nous on a pris les règles il y a 2 semaines, donc forcément, il n'y a pas trop d'égalité, mais c'est amusant de jouer avec eux, et ils commencent aussi à nous intégrer plus.
Malgré la barrière de la langue, le contact passe bien. Pour le commissaire européen à la jeunesse, Tibor Navracic, venu les saluer à Norcia, les jeunes ont réussi leur mission.
Ici, on a la sensation de faire partie d'une même communauté. Je pense que la notion d'identité européenne et le sentiment d'appartenance à l'Europe sont en train de grandir.
Natacha, 23 ans, est une volontaire grecque qui pense déjà à ses prochaines missions. Pour elle, l'expérience est enrichissante. Ici, elle se sent utile.
Oui, je sens qu'ils sont tristes à cause de ce qui s'est passé. Ils ont vécu toute leur vie ici. Maintenant, ils voient leur maison détruite. Leurs voisins ne sont parfois plus là. Ils ont dû partir. Les personnes âgées ont vraiment besoin de parler de ce qui s'est passé ou de leur vie quand ils étaient plus jeunes. Je me sens utile. Et c'est un sentiment merveilleux.
Les 16 volontaires sont là pour un mois, d'autres arriveront ensuite. Joe Short les encadre.
Nous, on a des jeunes qui vont venir depuis maintenant jusqu'au 2020. Et après, leur présence, c'est très important pour donner un peu un message aussi aux jeunes de Norcia qu'il faut que tout le monde ensemble aide à faire la reconstruction de Norcia.
Les échafaudages resteront encore très longtemps sur les édifices du patrimoine historique de Norcia. On évoque 2040 pour la fin des travaux. Ce soir, les volontaires européens rejoignent leur tente avant de recommencer à trier des pierres demain.
Sunday, Bloody Sunday de U2 qui nous indique la direction. Et oui, on part en Irlande du Nord. C'est un bâtiment flambant neuf qui accueille le musée Free Derry après une rénovation d'un peu plus de 2,5 millions d'euros. Derry ou Londonderry, deuxième ville d'Irlande du Nord qui reste imprégnée du souvenir des troubles. Et ce musée raconte du point de vue de ceux qui l'ont vécu, les années 60 et le combat pour les droits civiques. Une période que la communauté catholique de l'époque avait baptisée Free Derry, Derry libre. Et ce musée rénové est une preuve supplémentaire que les cicatrices ouvertes il y a 45 ans ne sont pas encore refermées. Julien Legache.
Derry ou Londonderry est coupé en deux par la rivière Foyle et le cours d'eau ne fait pas que traverser la ville, il l'a toujours divisée. Une partie britannique protestante sur la rive est fait face à une partie irlandaise catholique à l'ouest. Le projet du musée a vu le jour dans le Bogside, quartier historique de la classe ouvrière catholique, théâtre du Bloody Sunday le 30 janvier 1972. Ce jour-là, les soldats britanniques tirent sur une foule de manifestants qui protestent contre les mesures d'internement dont font l'objet bon nombre de catholiques. Bilan, 14 morts et 17 blessés. L'événement est fondateur dans la mémoire collective locale et nationale, d'où un musée qui propose un regard historique, distancié sur les événements. Plus de 20 000 pièces ont été rassemblées, photos d'archives, notes manuscrites, accessoires de manifestations, un matériau essentiel pour expliquer ces événements, notamment aux écoliers qui visitent le musée avec leurs professeurs, disent les responsables du projet. Mais près d'un demi-siècle après que le Bloody Sunday a refermé la parenthèse de Free Derry, cette mémoire reste vive et à vif. Après sa réouverture, des personnes dont les proches ont été abattus par l'armée britannique durant les troubles ont protesté et pétitionné contre l'exposition qui présente côte à côte les noms de soldats anglais tués à cette époque et ceux de civils, de manifestants, de militants de l'IRA abattus par la police et les militaires. Malgré le soutien d'une partie de la population, le musée a promis de retirer l'exposition, mais la direction estime que c'est la responsabilité du gouvernement britannique de rendre la justice, une justice qui, selon elle, a souvent fait défaut pour solder un passé encore frais dans les mémoires.
Avec un taux de chômage affiché de 1%, la Biélorussie se targue d'être le pays où il y a le moins de chômeurs au monde, sauf que la réalité est tout autre. Au printemps dernier, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre une taxe dite des parasites sociaux. Elle oblige les personnes sans emploi ou travaillant moins de 6 mois par an à reverser une certaine somme d'argent à l'État. Dans une économie dirigiste, le pouvoir autoritaire préfère considérer les chômeurs comme fautifs plutôt que d'admettre les problèmes économiques. Reportage Roman Colas.
Nikolaï Veramenka démarre sa Lada Jiguli de 1983. À 23 ans, ce passionné d'automobile a longtemps cherché du travail. Aujourd'hui ambulancier, il gagne 140 euros par mois et enchaîne les contrats précaires. Lorsqu'il était au chômage, il a reçu une lettre l'informant qu'il était un parasite social.
J'ai dû payer une taxe parce que j'étais au chômage, ce qui est délirant. Mais j'ai dû également payer la sécurité sociale parce que je ne travaillais pas, ce qui est tout aussi délirant.
Nikolaï dénonce une société bureaucratique qui prend davantage en compte les certifications officielles que la véritable expérience professionnelle. Il y a aussi de nombreuses barrières juridiques qui handicapent les entrepreneurs et poussent beaucoup d'entre eux à travailler au noir.
Beaucoup préfèrent travailler au noir. Payer une grosse amende de temps en temps, c'est plus rentable que d'avoir un boulot déclaré.
Dans sa petite maison proche d'une colline, chose rare dans la très plate Biélorussie, le blogueur Verasen passe un été pluvieux. Pendant 6 mois, ce jeune homme de 28 ans a réalisé une expérience. Il s'est inscrit au registre officiel des demandeurs d'emploi et a raconté son fonctionnement. Si les chômeurs ne s'y inscrivent pas, c'est tout simplement que le système est complètement inefficace.
Les boulots qui sont proposés à la majorité des gens ne leur correspondent pas et sont payés une misère, 8 euros par mois. Il est évident que même en Biélorussie, personne ne survit avec ça. Le fonctionnaire du Pôle emploi, c'est en fait la dernière personne à qui tu t'adresses.
Au printemps, la taxe sur les parasites sociaux a déclenché une importante vague de protestations à travers le pays, et pas seulement dans les grands centres urbains. Victoria Rochko, 50 ans, est maraîcher dans la petite ville d'Ivier. Il cultive des fraises, mais voit bien qu'autour de lui, il n'y a pas grand-chose à faire.
Comment trouver du travail ici? Dans la forêt? Il n'y a pas de boulot ici. Dans les petites comme dans les grandes villes, trouver du travail devient chaque jour de plus en plus dur.
Forcément, quand le gouvernement parle d'un taux de chômage de 1%, Lui n'y croit pas.
Si ce n'était que 1%, cela voudrait dire que j'aurais dû visiter 100 maisons pour trouver un chômeur. Pourtant, j'en ai visité une cinquantaine et rencontré 35 chômeurs.
Même s'il n'est pas directement concerné, Victor a lancé par solidarité une pétition contre le décret présidentiel qui oblige les Biélorusses travaillant moins de 6 mois par an à payer une taxe de 190 euros. Surnommée taxe sur les parasites sociaux, du nom d'un délit en vigueur sous l'URSS, les autorités se sont appuyées sur ce décret pour demander des comptes à près d'un demi-million de personnes. Des personnes au chômage, mais aussi des travailleurs non déclarés.
Les gens étaient en colère, c'est de l'argent à prévoir, ils ont des enfants. Quand l'argent manque, comment faire ?
Derrière les bons chiffres et de belles infrastructures, l'économie biélorusse connaît de sérieuses difficultés à se financer. La dette publique du pays a augmenté de 50% en 5 ans et atteint aujourd'hui 40% du PIB. Irina Davidovitch est artiste peintre et responsable à Ivier du seul parti d'opposition possédant un siège au Parlement. Elle aussi a dû s'acquitter de la taxe sur les parasites sociaux. Mais à l'inverse de beaucoup d'autres, elle a choisi de payer, car en tant qu'opposante, elle craignait de donner au pouvoir un motif d'arrestation. Selon elle, c'est parce que les caisses de l'État sont vides que les autorités maintiennent ce décret.
Quand le gouvernement a vu les gens en colère, ils n'ont pas annulé le décret. Ils ont donné l'ordre de faire une pause. Ils peuvent le faire entrer en vigueur à tout moment.
Mi-juillet, le président Loukachenko a en effet déclaré que le décret sera révisé et présenté à nouveau au mois d'octobre. Pour défendre cette mesure, il reconnaît paradoxalement que 350 000 personnes, soit 8% de la population active, ne travaillent pas et doivent y être poussées par tous les moyens. Selon lui, ces personnes pèsent sur le système de protection sociale du pays. L'opposante Irina Davidovitch doute que la pilule passe cette fois aussi.
Prendre de l'argent aux gens, les rendre plus pauvres, plus dépendants, ce n'est pas une façon de régler la situation. Dans les temps à venir, je n'exclus pas de nouvelles manifestations très importantes.
Face à une crise qui refuse d'avouer son nom, de nombreux Biélorusses partent travailler à l'étranger, en Russie notamment, longtemps destination numéro 1. Mais depuis la guerre en Ukraine et les sanctions visant l'économie russe, les Biélorusses sont de plus en plus nombreux à se rendre vers la Pologne voisine, en pleine croissance. Et Varsovie accueille ses migrants à bras ouverts, contrairement à d'autres.
Livre.
Il y a quelques mois, l'Allemagne applaudissait à deux mains l'élection du très européen Emmanuel Macron. Depuis, les élections sont passées outre-Rhin. Angela Merkel est fragilisée et n'arrive toujours pas à former un gouvernement de coalition. Une incertitude qui pèse sur la stabilité de l'Union et sur les projets de réforme portés par le président français notamment. Il faut dire que depuis le Brexit britannique, l'Europe est attaquée de toutes parts. Pourtant, des idées existent pour la renforcer. L'ONG, l'Europe des citoyens, a réuni 4 eurodéputés qui font 10 propositions. La journaliste Céline Schön leur a donné la parole. Céline Schön qui, comme les 4 eurodéputés, constate le désamour.
On se rend compte que les citoyens, en général, ont de moins en moins confiance dans cette Europe. Et ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher ça, de ne plus se retrouver dans cette Europe, alors même qu'ils voient des chefs d'État et de gouvernement qui prennent le Conseil pour un théâtre de l'expression des égos nationaux. Pendant la crise des réfugiés, c'était un très bon exemple. On a vu que chacun essayait de tirer sa couverture à soi et que même ces chefs d'État et de gouvernement n'avaient plus d'envie d'Europe. Michel Rivasi, comme Françoise Grosstete, partagent ce constat.
D'autant plus qu'il y a un contexte difficile pour l'Union européenne, la vague des populistes qui arrive, le Brexit qui s'annonce. Et justement, les quatre font des propositions pour protéger l'Europe.
Effectivement, l'Europe a besoin probablement d'un peu se centrer sur elle-même pour savoir comment faire face aux différentes menaces qui arrivent de tous les côtés, mais qui arrivent, comme vous le soulignez, aussi de l'intérieur, avec des partis populistes qui sont de plus en plus entendus. Et ce Brexit, beaucoup espèrent que ça sera un électrochoc pour l'Europe et que ce sera le moment de repartir d'un bon pied. L'Europe, effectivement, met toujours en avant son unité, mais il y a tellement de dissensions en son sein. C'est là que les eurodéputés, du coup, ont envie de faire des propositions pour notamment inclure mieux les citoyens dans tout ce qui est processus décisionnel de l'Union européenne, pour peut-être enfin qu'elle leur parle
Alors aujourd'hui, l'Union européenne donc fait face à plusieurs défis. On l'a dit, le Brexit, hein, la crise des migrants, mais il y a aussi une nécessité que soulignent tous les quatre, c'est de construire une vraie Europe de la défense face à Poutine, et puis aussi une Europe de la sécurité face aux attentats.
C'est quelque chose qui revient régulièrement sur la table, et pourtant on n'arrive pas à avancer. Alors certaines voix espèrent qu'avec le Brexit, on va enfin pouvoir avancer, dans le sens où c'est souvent des Britanniques qui ont bloqué certaines avancées qui étaient envisagées, comme par exemple l'établissement d'un quartier général à Bruxelles dédié simplement aux missions civiles et militaires de l'Union européenne. Peut-être à 27, c'est quelque chose qui pourrait se concrétiser. C'est pas un projet complètement ubuesque. On parle pas de là d'une armée européenne, parce qu'une armée européenne, personne n'en a vraiment envie aujourd'hui.
L'autre grande critique des citoyens européens en général, c'est de dire que la Commission est en proie au lobby. Alors que proposent vos quatre parlementaires ?
Eux, ils aimeraient voir plus de transparence, et ce, dans toutes les institutions, mais à la Commission, au premier chef. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'affaires récemment qui ont un peu écorné l'image de la Commission. On peut penser par exemple à l'ancien président de la Commission Barroso, qui lui a rejoint Goldman Sachs, qui a quand même une réputation relativement sulfureuse. Quand on voit le commissaire Oettinger qui va prendre l'avion avec des lobbies, ben effectivement ça peut poser question. Mais on voit aussi au sein des institutions aujourd'hui, et notamment de la Commission, des employés qui se regroupent et qui essayent de faire avancer les choses vers plus de transparence, et de montrer aux citoyens que eux aussi sont victimes de ce système-là et que ça ne leur convient pas.
Est-ce que du coup, il ne faudrait pas repenser les institutions de l'Union ?
Déjà, ce serait aller toujours vers plus de transparence pour elles, repenser aussi leur imbrication. On a toujours l'impression que le Parlement, c'est un peu la cinquième roue du carrosse de ces trois institutions. Il faudrait repenser probablement son rôle et essayer de faire en sorte que sa voix soit réellement entendue.
L'Europe des citoyens de Céline Schön, et c'est publié aux éditions du Cherche Midi.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
Amis de la raison, passez votre chemin si d'aventure vous empruntez le Vico Santa Maria delle Grazie dans le centre historique de Naples. Depuis 2 ans, elle a été rebaptisée par les passants la ruelle de l'amour. Cécile Debarge.
Si ce n'est pas toi l'amour, alors l'amour n'existe pas. À Naples, on ne badine pas avec les mots doux, et la bien nommée ruelle de l'amour en est le meilleur exemple. Située à l'entrée des quartiers espagnols qui ont longtemps souffert d'une mauvaise réputation, le Vico Santa Maria delle Grazie a été transformé en temple du romantisme il y a 2 ans et demi. Les commerçants de la zone voulaient y attirer touristes et acheteurs en pleine période de Saint-Valentin. Ils ont donc suspendu de gros cœurs en carton, des banderoles bleues, jaunes, blanches, le tout recouvert de dizaines de mots d'amour en grosses lettres. Paroles de chansons ou citations célèbres, il y en a pour tous les goûts, sauf pour les partisans de la discrétion. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore, et l'initiative commerciale un peu kitsch a perduré pour devenir une véritable attraction touristique. Alors au milieu de ces torrents de romantisme, certaines banderoles se font plus pragmatiques et l'endroit est devenu idéal pour déclarer ses sentiments. « Si tu ressens ce que je ressens, bah alors autant essayer quelque chose », nous dit l'un des messages. Si aujourd'hui tout le monde se presse dans la petite ruelle de l'amour, beaucoup ignorent qu'en réalité c'est au Vico Pensiero qu'il faudrait aller, à une dizaine de minutes à pied. Là où il y a une centaine d'années encore, une pierre avec quelques vers rappelait le calvaire d'un jeune poète qui avait perdu son âme en s'amourachant d'une sublime sorcière.
Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, bien sûr, Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Et restez à l'écoute de RFI dans quelques instants.